Je viens de l'acheter alors. On est très heureux de pouvoir écouter pour une deuxième conférence le père Nicolas Butet, fondateur et modérateur de la fraternité Eucharistein, dont la vocation est d'aimer Jésus Eucharistie. Je signale que le 16 juin sera un grand jour pour la congrégation, parce qu'il y aura deux ordinations sacerdotales par Mgr Ray et 15 prêtres, frères et sœurs qui prononceront leur vœu perpétuel. Voilà. Le père Nicolas Butet va nous parler de l'Eucharistie dans le prolongement de la journée mondiale pour la journée qui est organisée au Sacré-Cœur de Montmartre pour la venue du règne eucharistique dans le monde. Il va nous apprendre, nous amener à mieux aimer, comprendre et rentrer dans l'Eucharistie. Voilà. Merci mon père.
Voilà, donc nous avons parlé tout à l'heure, vous me faites des signes si vous ne comprenez pas, on m'a dit qu'on n'entendait pas très bien tout à l'heure. Voilà, donc vous faites des gestes et des signes si ça va trop vite ou comme ça. Voilà, on a vu tout à l'heure l'Eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne. On m'a demandé d'approfondir maintenant le lien entre l'Eucharistie et le pauvre. D'abord, première chose, si je reprends un petit peu en quelques mots ce que j'ai dit tout à l'heure, mais l'Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne parce que c'est Jésus qui est là. Et finalement, ça doit être notre souci, j'allais même dire notre obsession, Jésus. Un jour, il y avait trois demoiselles qui étaient devant une bijouterie et qui admiraient les bijoux qui étaient là. Et une dit à l'autre, « Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Elle dit, « Moi, c'est les diamants qui sont là, si je pouvais porter cette rivière de diamants avec le petit diadème et les boucles d'oreilles qui vont avec. » Elle dit ça, ce serait superbe. Elle dit, ben moi je préférais les émeraudes, moi le verre va tellement bien, alors j'avais les boucles d'oreilles, le bracelet, pour la cheville aussi, le petit truc, ce serait vraiment génial. Puis la troisième ne disait rien, puis d'autres lui disent, mais et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et la troisième dit, moi je songe à épouser le fils du bijoutier. Et donc, voilà, eh bien, c'est ce que nous pouvons faire, nous, voyez-vous. On peut épouser le Fils. On a épousé le Fils du bijoutier. On a épousé Jésus. Notre baptême nous a unis à lui. Et donc, on peut expérimenter, goûter la plénitude des dons, la plénitude des biens du Père qui nous sont donnés aussi de cette manière-ci. Voilà, et ça, je crois que c'est quand même l'expérience eucharistique centrale. Ce dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, aussi avec la communion et l'adoration, je ne vais pas y revenir, mais j'aimerais approfondir cet autre aspect qui est celui de la pauvreté. Franchement, essayons de réfléchir deux secondes. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je parlais l'autre jour avec des personnes qui se disaient athées. Je dis, mais je pense quand même qu'il doit exister un acte pur quelque part qui doit exister. Je ne sais pas si vous, ça vous branche, l'acte pur, le premier principe, premier moteur immobile, la transcendance absolue, ben, ce n'est pas très craquant comme concept intellectuel pour parler de Dieu. Par contre, voyez-vous, le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu qui est venu, qui s'est fait pauvre. Il s'est fait enfant dans la crèche. Et il a fait « ouin » comme tout bébé dans une crèche. Et les bergers qui étaient là, admiratifs, ont vu ce petit bout de chou et qui disent « oh, qu'il est beau ce petit, il doit au moins peser 4 kilos ». Pour Dieu, c'est pas lourd, voyez, quand même. Et donc, l'émerveillement devant cet enfant. l'abaissement de Dieu. Dieu vient chercher l'humanité par en dessous. Il vient nous empoigner par en dessous. Il se fait le dernier, cette dernière place, personne ne pourra la lui ravir, voyez-vous. Deuxième lieu de manifestation sublime de cet amour qui descend, c'est la croix, bien sûr. Il n'y a pas de lieu où l'homme descende dans la souffrance qu'il ne puisse pas être rejoint par un Dieu qui s'est abaissé le premier, par un Dieu qui est descendu le premier, par un Dieu qui s'est livré le premier. Depuis Jésus sur la croix, il n'y a plus une croix sans un Dieu dessus. Et il n'y a plus une seule souffrance, une seule blessure qui ne soit pas rejointe par ce Dieu dans cet abaissement. Et donc ça, c'est la deuxième expérience bouleversante d'un Dieu qui finalement se fait le dernier et se fait le plus pauvre. Et troisième abaissement, troisième lieu de cette expérience eucharistique qui est bouleversante, c'est l'Eucharistie. Là, il n'a même plus le visage d'homme, ni les traits d'un fils d'Adam. Il a le look d'un bout de pain, le look d'un peu de vin. Matière inerte, il a même besoin, il ne peut pas se casser tout seul du tabernacle. Si je m'embête ici, je pars. Il l'a fait quelquefois avec Sainte Faustine. Vous savez, Sainte Faustine, un jour, voit arriver le ciboire dans sa chambre, dans sa cellule religieuse. Paf, au milieu, pendu en l'air comme ça. Mais qu'est-ce que tu fous là, Jésus? C'est pas ta place. Je m'embête là-bas, au tabernacle. Dans ce monastère, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a que toi, je viens habiter chez toi. Mais écoute, ça ne se fait pas très bien, Jésus. C'est pas comme ça que ça doit se faire, tu vois. Enfin, non, il faut que tu rentres au tabernacle. Non, je reste un moment avec toi, lui dit Jésus. Il dit, bon, on reste un petit moment, mais après, tu retournes au tabernacle. Alors, maintenant, il faut que tu rentres chez toi, vous imaginez. Et Jésus dit, non, je ne rentre pas tout seul, c'est toi qui me portes. On était avant le Concile Vatican II. Il était absolument interdit à quiconque, mais surtout pas un laïc, à des mains non consacrées, et encore pas une femme, vous imaginez, de toucher un ciboire. Eh bien, Jésus a eu le courage et le culot de briser ses lois et de demander à cette religieuse de le porter au tabernacle. Ça lui arrivait plusieurs fois, d'ailleurs. Oh non, Jésus, elle aimait bien, hein, mais... Voilà. Donc, à part ces moments-là, Jésus, il reste là, et il a besoin de nos mains, il a besoin de nous pour être transporté, voyez-vous. Il ne va pas aller tout seul, comme ça. Ça, c'est la vulnérabilité de Dieu. Ça, c'est la pauvreté de Dieu. Ça, c'est l'abaissement de Dieu. Ça, c'est l'ultime pas, voyez-vous. Et donc, si Dieu nous appelle à aimer le plus pauvre, le plus abandonné, le plus délaissé, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Voyez-vous, c'est lui qu'il va falloir aimer. Dans la parabole du bon samaritain, c'est très intéressant parce que ce jeune homme vient poser la question et il dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus raconte cette histoire d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. C'est tout le symbole aussi de la vie humaine. Jérusalem, c'est la cité de Dieu, la cité de la paix. Jéricho, c'était le lieu du péché. Il est blessé en route, c'est le péché originel et tout ça. Bref, cet homme est là et le Lévite, le scribe ne peut pas le guérir. La loi, les rites de l'ancienne alliance ne peuvent pas guérir. Arrive un samaritain, et vous connaissez l'histoire, qui prend le blessé sur ses épaules, qui l'amène à l'auberge. Jésus est le samaritain, il porte dans l'église l'auberge, il donne deux pièces, c'est-à-dire la parole de Dieu et les sacrements, et dit, et si vous avez besoin de rab, s'il vous faut plus, je suis capable de donner plus, ce sont les indulgences et toutes les grâces, voilà. Et alors, Jésus pose la question ensuite au jeune homme, mais qui est mon prochain? Il faut aimer son prochain. Et il dit, mais qui s'est fait le prochain de l'homme blessé? Qui s'est fait le prochain de l'homme blessé? Et la personne dit, l'étranger, le samaritain. Donc finalement, le premier qu'il faut aimer, ce n'est pas l'homme blessé, c'est le samaritain. Quand on prend au mot près dans le texte grec et dans une bonne traduction française de la parabole du bon samaritain, qui est mon prochain? Qui s'est fait le prochain de l'homme blessé? C'est le samaritain. Il faut donc, le prochain est donc le samaritain, il faut aimer le samaritain. Et comment vais-je prouver que j'aime le samaritain? En faisant la même chose qu'il a fait. Et donc, voyez-vous, il y a toujours au cœur de notre vie chrétienne le primat de l'amour du Christ, le primat de l'amour de Jésus. Je me souviens quand Mère Teresa avait reçu le prix Nobel de la paix, j'étais à Calcutta juste après, il y avait un défilé de journalistes de la terre entière qui débarquaient là-bas. Et elle avait écrit un immense panneau devant la porte d'entrée de la chapelle. Dites bien au monde entier que nous ne sommes pas des assistantes sociales. Nous sommes des épouses du Christ, et parce qu'on l'a vu, qu'on l'a adoré, qu'on l'a contemplé, qu'on l'a reçu ici dans la chapelle, on est capable de le voir, de le reconnaître sous le visage des plus pauvres. Et donc, il y avait bien sûr ces deux liens, mais premièrement, parce que je sais reconnaître Jésus dans sa pauvreté, sa vulnérabilité. Je sais le reconnaître dans son visage de l'enfant de la crèche rejeté. Je sais le reconnaître dans le crucifié, rejeté, abandonné, bafoué, torturé. Je sais le reconnaître sous les haillons les plus insignifiants que sont l'apparence d'un petit bout de pain et l'apparence d'un peu de vin. Alors je suis capable de reconnaître son visage sous les traits des autres. Ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident. C'est une histoire authentique. Un jour, un peintre vient trouver le pape Léon XIII. On est à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Il dit « Saint-Père, est-ce que je pourrais peindre votre portrait ?» Alors, un peu avec beaucoup de charité, il dit « Allez-y, si vous voulez. » Et alors, il pose, et puis le peintre arrive quelques temps plus tard avec le portrait. Et manifestement, ce peintre avait beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de talent. De sorte que la ressemblance n'était pas tout à fait là. Et alors, le pape voit le portrait avec beaucoup de charité, il dit merci, il dit, mais alors est-ce qu'on pourrait peut-être juste rajouter une citation biblique dessous, une référence? Et le peintre, très touché que le pape demande une modification du tableau, il dit, mais oui, volontiers, dites-moi ce que vous voulez que je rajoute, vous voulez que j'écrive quoi? Dites-moi, enfin, quelle phrase? Il dit, non, marquez juste la référence, ceux qui liront comprendront. Et alors, qu'est-ce que je marque? Vous marquez Jean 6, 20. Alors, quand on va lire Jean 6, 20, on se rend compte que c'est les apôtres qui sont sur le lac de Tibériade, il y a la tempête, Jésus s'approche en marchant sur les eaux, ils sont complètement paniqués, ils le prennent pour un fantôme, et Jésus leur dit, Jean 6, 20, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc, je me dis que parfois on devrait se graver Jean 6, 20 sur le front, vous savez, des fois le matin, au petit déjeuner dans les familles, on arrive, la bouche à 7h25, à peine capable de dire encore bonjour. Il y a un effet du café qui est assez extraordinaire, il est capable de débloquer les zygomatiques. Vous savez, aucun scientifique n'a pu encore expliquer ce phénomène extraordinaire chimico-physiologique, mais enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer parfois. Voilà. Et donc, Jean 6, 20, voyez-vous, il n'est pas facile de découvrir le visage du Christ sous les haillons du crucifié, sous les haillons du corps eucharistique, et on passe si souvent à côté sans le reconnaître, si souvent à côté sans le reconnaître, quand on dit le corps du Christ, amen, ben voilà, et tout d'un coup, le découvrir sous le visage des pauvres. C'est ma première expérience, je vous la partage, parce que c'était pour moi un moment déterminant, j'étais à l'époque, des années en arrière, je faisais du droit, j'étais dans un stage d'avocat, et je faisais de la politique aussi, et dans le stage d'avocat que je faisais, j'ai dû m'occuper d'un jeune qui avait violé et brûlé cet enfant. Et c'était vraiment l'horreur. C'était vraiment l'horreur. Et la première fois que j'ai été le voir en prison, ça m'a tellement bouleversé. Je m'attendais au monstre. Tout le monde appelait le sadique, cette personne. Et j'ai vu un être humain avec deux bras, deux jambes, une tête, un corps. Et c'est ça qui m'a choqué, voyez-vous, parce que je me suis dit que si j'avais rencontré dans la rue, j'aurais jamais su ce qu'il faisait. Et j'ai eu cette stupeur de découvrir que tout partait du cœur. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Où en est notre cœur? Alors c'était le premier choc, et je me suis dit, il faut faire une révolution des cœurs, mais il faut commencer par soi-même. Et alors, j'avais un ami qui était à l'époque en Italie, dans une maison d'accueil de personnes handicapées, physiques et mentales, graves. Il s'appelle le Cotolengo, du fondateur Giuseppe Cotolengo à Turin. Ils sont dans le monde entier, mais c'est à Turin que je suis allé. Et puis je lui ai proposé que j'aille là-bas. Je ne l'avais pas vu depuis des années, une dizaine d'années comme ça. Et il me dit, écoute, as-tu déjà travaillé avec des personnes handicapées? Je dis, non, jamais. Il me dit, certains arrivent là, ils ne défont pas même leurs valises, sont tellement choqués qu'ils repartent immédiatement. Donc, ça t'arrive, tu ne seras pas le premier. Alors, je travaillais aussi à l'époque au Parlement suisse, et donc je quittais le Parlement suisse, je partais pour aller au Cotolengo. Et j'arrive là-bas. D'abord, les personnes les moins handicapés, enfin, qui étaient là, qui pouvaient quand même bouger, on me fait rentrer, on ferme la porte à derrière moi, et ces personnes foncent vers moi, une quinzaine de personnes. Coincé, je ne pouvais plus partir. Je dis, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Je savais comment saluer un ministre comme ça, je ne savais pas comment saluer un frère handicapé, voyez-vous. Ben, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Il suffit voilà, ils sont venus à moi, ils m'ont pris dans les bras. Ceux qui arrivaient à parler m'ont demandé mon nom. J'aurais demandé leur nom. J'avais aucun titre, rien du tout, si ce n'est celui de frère. Et puis à 10h du soir, le frère qui m'a accueilli me dit, ben écoute, on va juste aller se coucher. Je dis, écoute, ouais, j'ai 3 semaines de fou là, très volontiers pour aller me coucher. On se levait à 5h du matin, le lendemain matin. Et il me dit, on va juste voir si les malades dorment bien. Et on arrive dans un dortoir de 20 malades, gravataires, une odeur, mais une odeur. 18 étaient pleins de la tête aux pieds. Et il me dit, on va aller les nettoyer. Je dis, oui, demain matin. Il me dit, est-ce que toi, tu aimerais dormir comme ça? Je dis, non, pas trop. Ben, il me dit, ben, tu sais, ils sont faits comme toi. Je dis, ok. Je dis, mais moi, je ne sais pas si toi, tu es fait comme moi, parce que moi, les odeurs, je ne supporte pas. Donc, on peut faire un truc. Moi, l'idée géniale, vous savez, tu ouvres la fenêtre, tu traverses, tu ouvres la fenêtre, on va boire un café italien bien tassé, on revient dans une demi-heure, ça aura aéré un petit peu, et puis je dis, je vais t'aider. Il me dit, écoute, ton idée, elle est nulle, parce que si on fait ça, dans 10 jours, ils vont tous mourir d'une bronchopneumonie. Alors là, je rêvais à mon masque à gaz militaire, vous savez. Et puis, il n'y avait pas de masque à gaz à ce moment-là, donc je suis rentré en apnée. Il m'a expliqué comment il fallait faire. C'était assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Techniquement, ça va. Il me dit, toi, tu commences à gauche, moi à droite, quand on se rejoint, on a fini. Alors là, ça m'a frappé, c'était la première parole sensée de la soirée. Ça rejoignait ma rationalité, vous voyez. Sauf que quand j'étais à gauche, j'ai levé la première couverture, c'était tellement sale, je me suis dit, bon, ben, les plus sales, c'est pour lui, moi, je ferai les moins sales. J'étais au deuxième, c'est aussi sale que le premier, je suis revenu en arrière. Et ça durait 2 heures. Pendant les 2 heures, j'avais cette parole qui tournait en boucle dans ma tête. Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. C'est à moi que tu l'as fait. Et il y a vraiment ce corps du Christ qui était là. J'ai su après que c'était l'expérience qu'avait fait Giuseppe Cottolengo, de vraiment découvrir ce corps. Du coup, j'étais plus fatigué et je suis descendu à la chapelle. Il y avait l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Et je ne sais pas comment vous dire, mais arrivé là, devant Jésus, j'ai su que c'était lui aussi. J'avais dit des dizaines, des centaines de fois avant « Amen », quand on me donnait le corps du Christ. J'avais jamais eu cette stupeur de dire « c'est vraiment lui qui est là, c'est vraiment lui qui est là ». Voyez ? Et tout d'un coup, cette expérience de dire « voilà, c'est le même Jésus sous des visages différents. Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, il n'a pas dit « c'est comme si tu l'avais fait à moi », il a dit « tu l'as fait à moi ». Donc il s'identifie personnellement aux plus pauvres, aux plus rejetés, aux plus vulnérables. J'avais faim, j'avais soif. Et voyez-vous, ces œuvres de miséricorde sont d'abord physiques, corporelles. C'est sa chair qui souffre. La faim, la soif, la nudité, le sans-abri. Et le pape François disait, mais ces paroles sont incontournables, elles sont non négociables. On peut faire toutes les explications politiques qu'on veut. On peut faire toutes les théories qu'on veut, elles sont non négociables. En tout cas, au jugement dernier, on passe l'examen, et là, on ne peut pas argumenter, je vais vous dire. Tu l'as fait à moi. Ouais, mais je voulais t'expliquer justement que je trouvais que ce n'était pas... Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait? Ouais, mais je t'explique... Non, tu n'as rien à expliquer, c'est oui ou non. Là, non négociable. Mais voyez-vous, il va falloir aiguiser notre regard, et c'est là qu'il va falloir venir découvrir... ce visage de Jésus au Saint-Sacrement, aimer Jésus, parce que cette force d'amour est impossible sans la grâce de Dieu. Cette force d'amour est impossible sans la grâce de Dieu. Il faut vraiment que Dieu vienne par sa grâce et sa force nous soutenir. Quand les sœurs de Mère Teresa un jour lui disent « Mère, on a tellement de pauvres à s'occuper, est-ce qu'on pourrait réduire un peu les temps de prière pour aller plus longtemps avec les pauvres ?» Elle dit, vous posez une question importante, on va y réfléchir. Et quelques semaines plus tard, elle vient et dit, vous avez raison, il y a tellement de pauvres à s'occuper. Donc on va rajouter 1 heure d'adoration chaque jour. Autrement, vous serez incapable d'aider les pauvres. Elle était sévère. Vous savez, un jour, j'étais là-bas, je parlais avec elle. Il y avait une sœur qui sortait de la maison mère pour aller dans les centres. Et Mère Teresa l'attrape, « Sister, come here, viens ici, ma sœur. » Alors, elle revient en arrière, et Mère Teresa lui regarde avec fermeté, un petit sourire, beaucoup de douceur, mais non négociable aussi. « Ma sœur, vous restez ici aujourd'hui, vous ne sortez pas. » Ah bon, ma mère, oui, volontiers. Pourquoi? Avec la tête que vous faites, les pauvres ont déjà suffisamment à souffrir sans supporter encore la tête que vous faites. Hop là! Avec la gueule que vous tirez, traduit en langage plus direct, ben vous n'allez pas leur faire subir encore cette souffrance en plus. Ok, je reviens en arrière, vous ferez les nettoyages des toilettes et des sols comme ça vous ira très bien. Eux, ils vont pas vous en vouloir si vous tirez la gueule. Ensuite, on a continué notre discussion comme si rien n'était, mais moi, ça m'avait percuté, vous comprenez, cette expérience-là. Voilà, donc, l'Eucharistie est ce moment, enfin, ce visage où il nous invite vraiment à rentrer dans cette logique de découvrir le plus beau. On ne peut pas vivre l'Eucharistie sans cela. C'est la raison pour laquelle le Jeudi Saint, voyez-vous, l'Église qui célèbre l'institution de l'Eucharistie, nous donne comme évangile et comme geste particulier le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Dans ce geste du lavement des pieds, Saint Jean nous dit que Jésus déposa son vêtement, prit un lintion, le lintion en grec, c'est l'habit des esclaves. On dit qu'il prit un tablier, mais le mot grec, c'était un habit que portaient deux personnes, les esclaves et les condamnés à mort. C'était l'habit humiliant pour les riches condamnés à mort. L'empereur qui voulait se moquer des riches leur mettait ça, les faisait circuler dans la rue et ensuite les tuer, les décapiter habituellement. Et donc, voilà. Donc c'était, il se ceint d'un habit d'esclave, puis ensuite reprend son habit et leur demande s'ils ont compris ce qui s'était passé. Pas très bien pigé quand même. Et alors, il y a des verbes grecs qui sont utilisés là. Celui qui dépose son vêtement et qui reprend le vêtement, c'est exactement les mêmes verbes que Jésus va utiliser en disant « Mon Père m'a donné le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. » Et donc, chez Saint Jean, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Jésus n'est pas un boy scout qui fait une BA, qui fait sa bonne action. Il n'est pas en train de rendre un service. Il est serviteur, vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'il accomplit en lavant les pieds, ce n'est pas un job qu'il fait, c'est un état dans lequel il est. Le même état qu'il fera que dans sa chair même, il va mourir, que dans sa chair même, il va se livrer. C'est une même logique de laver les pieds que de donner sa chair. Et ça, ce n'est pas si facile à comprendre. Je vais vous donner une petite image pour comprendre ça. Vous avez tous mangé sans doute un jour une omelette au jambon. Ça l'est bien assaisonné, c'est très bon. Pour une omelette au jambon, il faut deux choses. Il faut des œufs et du jambon. Il faut donc deux animaux, des poules et un cochon. Vous voyez, la participation de la poule et du cochon n'est pas la même. La poule est concernée par l'omelette, le cochon est impliqué dans l'omelette au jambon. C'est-à-dire que la poule, elle peut pondre des œufs après. Le cochon, c'est quick et on prend le jambon. Vous voyez la différence? Donc, pour avoir un jambon, il faut trucider la pauvre bête. Eh bien, j'allais dire, on est plus du type cochon que de poule, nous, hein, si vous ne comprenez pas dans le sens... Mais c'est-à-dire qu'on doit donner, on doit se donner. Ce n'est pas un service qu'on donne, c'est notre chair qui est donnée, c'est notre vie qui est donnée, c'est notre être profond qui est donné. Voyez-vous? Et j'allais dire, c'est la logique de la consécration, en quelque sorte. Consécration matrimoniale, consécration religieuse en particulier. Je ne rentre pas dans une communauté pour faire un service. Je rentre pour me livrer totalement, corps et âme, entre les mains de Dieu, qui va se servir de moi ensuite pour faire l'omelette au jambon, c'est-à-dire pour nourrir les autres. Saint Augustin disait, quand vous recevez le corps du Christ, vous dites Amen. Dites Amen parce que vous croyez que c'est le corps du Christ. Vous dites aussi Amen parce que vous êtes appelé à devenir celui que vous recevez. Vous êtes appelé à devenir celui que vous recevez. Et vous devez être bon pain pour les autres. Et le pain ne se négocie pas. C'est Madeleine d'Elbrel, vous savez, cette extraordinaire femme athée, communiste, qui est devenue croyante, et qui avait dit une chose étonnante. Elle avait dit, j'ai compris quelle est la pauvreté radicale du chrétien. La pauvreté radicale du chrétien, c'est d'avoir dans son cœur un trésor que l'univers entier ne peut pas contenir et d'être incapable de le partager, de le donner. Il peut en témoigner, il peut en rayonner, mais il ne peut pas dire « je te donne un petit bout ». Chacun reçoit personnellement ce trésor. Chaque trésor est donné dans la liberté de chaque être humain, voyez-vous. Et donc, Madame Delbrel, qui s'occupait des pauvres dans la région d'Ivry, ici, disait « nous n'avons pas le droit de donner autre chose que de l'éternel si nous venons de la part de Jésus. Nous le donnons sous des apparences fragiles, périssables, mais nous n'avons pas le droit de donner quelque chose qui ne soit pas chargé d'éternel. Car Jésus n'a pas dit « je vous donne », mais il a dit « prenez, prenez et mangez ». Là se trouve toute la ligne de la charité. Être essentiellement assimilable, être mangé comme un aliment dans le seul intérêt d'être comestible. Il faut passer à l'état d'aliment dans la vie de ceux à qui nous servons. Leur être une nourriture, c'est être livré à leur bien. Nous sommes un pain pour les autres à condition qu'ils soient descendus du ciel. Donc, on doit devenir bon pain pour les autres. Quand les autres nous manquent, nous savons, et ça c'est aussi une des paroles, Jésus nous dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Et nous qui sommes ici, en tout cas, nous savons que c'est en mangeant la chair du Fils de Dieu, en buvant son sang, ici, à la communion, que nous goûtons la vie éternelle. Mais toutes celles et ceux qui sont à l'extérieur et qui ne savent pas que c'est là la source, que c'est là la nourriture de vie éternelle, comment vont-ils goûter la vie éternelle? Eh bien, en nous mangeant nous-mêmes. Et être mangé, c'est accepter d'être comestible. Être comestible, ça veut dire avoir une attitude d'accueil, de bienveillance. Hein? Qu'ils reconnaissent en nous le Christ. C'est un jour, en Amérique latine, une histoire authentique, une dame assez aisée passe dans la rue et voit un petit garçon en haillons devant une devanterie d'habits d'enfant. Et l'enfant était là avec les yeux qui pétillaient devant ses habits tout neufs et tout beaux. Et cette dame s'approche de lui, met la main sur l'épaule, il panique complètement, dit non, bouge pas, n'aie pas peur, ça te ferait plaisir d'avoir des habits qui sont là? Et puis il dit, mais c'est quoi ce truc, c'est la police qui va débarquer pour m'arrêter, elle croit que je suis un voleur. Non, et puis il dit, non mais n'aie pas peur, moi ça me ferait très plaisir de t'offrir des habits. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, il hésite, puis il dit, mais le pantalon, viens, on va dedans. Alors le pantalon, la veste, la chemise, des enfin, il est habillé complètement, il a fait une garde-robe complète. Et le garçon regarde la dame et dit, madame, mais vous êtes le bon Dieu? Elle dit, non, je ne suis pas le bon Dieu, mais je le connais bien, c'est mon père. Je savais qu'il y avait un lien de parenté entre vous. Vous voyez, ça c'est juste. Je savais qu'il y avait un lien de parenté entre vous. Voilà, il faut qu'il y ait cette parenté entre le père qui donne son fils et chacune et chacun d'entre nous. Qu'il y ait cette générosité qui est là. Des parents me racontaient qu'un jour, ils avaient leur fille, 3 ans et demi, qui avait la leucémie, et les médecins ont dit, voilà, il faudrait faire une greffe de moelle osseuse, et le donneur idéal serait votre fils, qui avait 7 ans. Alors, mais c'est à vous de demander à votre fils. Alors les parents vont trouver leur fils, enfin, l'invitent à s'asseoir au salon, et disent, voilà, bah, tu sais, ta sœur a une maladie très très grave, et elle va mourir. L'enfant un peu surpris, puis il dit, mais tu sais, il y a une façon peut-être de la guérir. Si on te prend ce que tu as dans les os, ça s'appelle la moelle, et qu'on donne à ta sœur, alors ta sœur pourrait être sauvée. Mais ça, c'est toi qui décides si tu es d'accord ou pas. L'enfant les regarde dans les yeux et dit, oh, vous posez une question importante, il faut que j'aille prier. Les parents voient leur fils partir dans sa chambre, dans son coin de prière, ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Il revient un petit instant après, comme ça, quelques minutes plus tard, avec le sourire, la banane, vous savez. Et disent, alors c'est d'accord, quand est-ce que je meurs? Parce que lui avait, les parents ont compris que l'enfant n'avait pas compris ce qui se passait. Ils ont pensé que si on prenait à lui, lui devait mourir pour donner la vie à sa sœur. Il ne savait pas que c'était une opération, puis qu'il continue à vivre. Donc l'enfant a pris quelques minutes pour dire, ok, je donne ma vie pour ma sœur, quand est-ce que je meurs pour que ma sœur vive? Et les parents ont dit, mais on a fondu en larmes, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il pense que c'était une évidence. On ne pouvait pas lui demander de mourir pour sa sœur. Eh bien lui, alors ils ont dit, on a compris qu'il soit parti prier pour demander cette grâce. Et il a mis quand même quelques minutes. Hein. On aurait dit oui tout de suite. Hein. Vous imaginez? Et avec le grand sourire, d'accord, quand est-ce que je meurs? Waouh. Waouh. Alors, ça c'est la logique, voyez-vous. C'est la logique de rentrer, d'être comestible pour les autres. D'être comestible pour les autres. Saint Thomas d'Aquin, en langage plus philosophique et théologique, disait « Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, d'un amour de charité qui se donne à l'autre. Pour que les autres puissent vous aimer, rendez-vous aussi aimables. » C'est vrai qu'on appelle ça dans les communautés religieuses des frères ou des sœurs exerçants, c'est-à-dire ceux qui sont casse-pieds et qui sont pénibles et qui rouspètent tout le temps. Ça fait grandir la charité des autres, mais ce n'est pas obligatoire, vous voyez. Si vous voulez vraiment sanctifier les autres, vous pouvez faire ça, mais ce n'est pas obligatoire. C'est plus facile quand on se rend aimable. J'ai un ami qui est évêque dans le sud de l'Inde, l'évêque de Dharmapuri, et qui raconte cette histoire, mais je pense que c'est une histoire inventée. Les autres étaient vraies, mais celle-ci, c'est un gag. Et alors, il dit, c'est son vicaire général qui va un jour chez l'ophtalmologue et qui dit, docteur, vous savez, je vois très, 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 très mal. Alors, il dit, asseyez-vous, je vais examiner vos yeux. Alors, il examine et dit, non, il n'y a pas de problème, en tout cas, de lésion oculaire, tout est en ordre. Voilà, le cornet, Christian, tout ça, il y a tout qui va bien. De ce côté-là, rien à craindre. Est-ce que vous pouvez lire le panneau qui est là-bas? Alors, le gars, il commence A, B, Z, E. Et il arrive à lire tout au fond, printed in India. Et il dit, mais écoutez, asseyez-vous là, c'est pas possible. Il y a à peine 5% de la population qui arrive à lire à cette distance, printed in India, imprimé en Inde. Dites-moi quel est votre problème. Il dit, mais c'est pas moi, c'est mon évêque. Mon évêque n'arrête pas de dire, mais essaye de voir le Christ qui est en moi, et je n'arrive pas. Donc, voyez-vous, le rapport aux pauvres, le premier pauvre, Jésus, le deuxième pauvre, nous-mêmes, nous-mêmes qui sommes dans cette expérience de nos pauvretés, de nos fragilités, de nos vulnérabilités, et qu'il faut accueillir. Et parfois, ce n'est pas si facile que ça, de s'accueillir. Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Deux jours, je rencontre une fille qu'on a accueillie chez nous. Elle avait tellement de cicatrices partout, certaines larges, de pratiquement 5-6 mm comme ça, qui auraient mérité des points de suture et tout ça. Et elle m'a dit, je ne te montre pas les cuisses parce que c'est pire encore. Tous les avant-bras, tous les cuisses, scarification comme ça. Et vous lui dites, mais il faut s'aimer soi-même. Ce n'est pas le signe de l'amour de soi le plus évident et le plus lumineux que l'on puisse découvrir, voyez-vous. Et donc, deuxième pauvre soi-même, troisième pauvre l'autre. Donc l'Eucharistie est au centre d'un mouvement d'amour qui est ce passage du grand pauvre qu'est le Christ à l'accueil de ma propre pauvreté et de la pauvreté de l'autre. Le Christ me regarde avec un regard qui ne me dévisage pas, mais qui m'envisage. Un regard qui ne me défigure pas, mais qui me transfigure. Un regard qui me dit toute l'importance que j'ai à ses yeux. Il y a un jour une fille, j'avais accueilli dans mon ermitage, dans une falaise de rocher, il y avait 482 marches d'escalier pour y arriver, petite chapelle à gauche, ma petite grotte de l'autre côté, et je sortais de la chapelle et je vois arriver une fille qui tirait une tête vraiment triste. Je ne sais pas pourquoi, je vais vers elle, je lui mets les mains sur l'épaule, je lui dis, tu sais que tu es belle, Dieu t'aime et je t'aime. Elle a dû me prendre pour un fou, c'est pas mon genre habituellement d'ailleurs. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'auparavant, en psychothérapie familiale, son père lui avait dit « Tu peux crever, j'en ai rien à faire. » Et donc, elle a fait 5 tentatives de suicide. Et ce jour-là, ce que j'ai appris bien plus tard, elle avait un pistolet dans son sac. Elle s'était dit qu'avec une balle dans la tête et 135 mètres de chute à pic, elle n'allait pas se louper. Je ne savais rien de tout ça. On a passé 3 heures. Elle est redescendue par les escaliers, fort heureusement. Elle m'a juste dit qu'elle ne croyait pas en Dieu, rien à faire de Jésus. Elle revient le lendemain, le surlendemain, et là je lui dis, écoute, t'es trop blessée, il n'y a qu'une chose à faire, c'est te laisser regarder par Jésus. Elle me dit, mais je t'ai dit que je n'y croyais pas. Je dis, ça ne fait rien, lui il croit en toi. Je dis, mais ça veut dire quoi? Je dis, mais moi je passe des nuits de prière, d'adoration, à la chapelle, tu viens une nuit. Et puis voilà, de 10h du soir à 6h du matin. Et je pensais à cette phrase du prophète Malachi, le soleil de justice brillera portant dans ses rayons votre guérison. Je dis, il n'y a plus que ça vraiment pour elle, dans l'état où elle est. Donc elle part au pas de course. Je dis, bon, j'étais un peu trop fort. Elle revient après, elle me dit, ok, mais 9 nuits. Elle m'a dit après que sa grand-mère faisait des neuvaines, donc elle voulait faire une neuvaine d'adoration. Je dis, viens déjà un soir. Alors elle arrive le soir à 10h, j'expose Jésus, et elle reste là toute la nuit. Moi, j'étais un peu derrière, comme ça. Je la voyais, elle n'a pas bougé toute la nuit, les yeux rivés sur Jésus. Moi, j'avais la tête qui tombait comme ça. Alors dès que je la voyais, ça me réveillait un petit peu. Et puis, le matin, je lui dis, ça a été? Elle me dit, oui. Je dis, écoute, si tu veux venir une autre fois, tu viens? Oui, je viens ce soir. Je dis, non, on ne fait pas toutes les nuits, on fait une nuit sur deux. Et donc, elle est venue. À la fin, elle ne pouvait pas parler encore, mais elle m'a écrit un mot. Nicolas, j'étais tombé si bas, qu'au fond du gouffre, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé à la lumière. Je me trouvais moche, nul et conne. Et j'ai entendu durant ces nuits que Jésus me disait que j'avais du prix à ses yeux, que j'étais importante et qu'il m'aimait. Et il m'a fait comprendre que ce qui était important dans ma vie, les 15 ans, c'est parce que moi-même, je pensais de moi-même, c'est parce que mon père pensait de moi, c'est parce que mes copains et copines pensaient de moi, c'était ce que Jésus pensait de moi. 6 mois après, elle a fait sa confirmation, elle a fait son bac, elle a fait des études de lettres, elle est mariée, elle a 2 enfants aujourd'hui, et j'étais bouleversé, ce regard de Jésus qui envisage et qui transfigure, voyez-vous, qui guérit en profondeur cette absence d'estime de soi. Franchement, souvent en psychologie, on nous parle de l'estime de soi, ce qui est important, bien sûr, parce qu'il faut durer. Mais une fois qu'on a un peu d'expérience, qu'on sait un petit peu ce que nous sommes, Madeleine Delbrel disait, nous sommes un peu des clowns, et à ce jeu, on devrait être les premiers à rire. Et puis souvent on se prend au sérieux et on s'étonne d'être un peu clown. Non, il ne faut pas être très étonné, mais ce n'est pas facile. Soit on est dans le déni de nos limites, de nos pauvretés, de nos blessures, soit on les accueille et c'est dérangeant parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Et c'est là que Dieu peut venir, voyez-vous. Ce n'est pas malgré nos blessures, malgré nos pauvretés qu'il nous aime, c'est à cause d'elles. C'est par nos propres fêlures et nos propres misères qu'il va venir nous rejoindre. Il est le médecin de l'âme. Je suis venu pour les malades et pas pour les bien portants. Et si tu te reconnais comme tel devant moi, alors tu vas pouvoir expérimenter à ce moment-là cette tendresse guérissante du Christ. Voyez-vous ? Et donc, ça c'est l'étape importante. Et ensuite, une fois que j'étais capable d'accueillir aussi mes propres vulnérabilités, mes propres pauvretés, ma propre souffrance, je peux avoir de la compassion pour l'autre, voyez-vous ? Parce que l'autre n'est plus un miroir qui me renvoie à ma propre blessure et qui me fait fuir ma blessure dans le déni, c'est plus celui qui me menace par ses richesses ou ses talents, c'est celui qui vient, comme un frère ou une sœur, me rejoindre dans le même drame qu'est le mien, dans la même pauvreté qu'est la mienne. Alors là, j'aimerais faire une remarque importante. Voyez-vous, cet amour que le Christ nous demande de vivre est un amour très concret, il est réel. Vous savez, il y a un poète, Schiller, qui est un Allemand, qu'on a repris, dont les paroles ont été reprises sur l'hymne européen, la 9e de Beethoven, et sur lequel il dit « Embrassez-vous millions de personnes !» Et alors un jour, le camarade Ratzinger commentait cet hymne en disant « Imaginez-vous d'embrasser des millions de personnes !» C'est Gad Elmaleh, vous savez, qui dit le bisou, il est là, sur la joue. Hein, c'est pas par téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, le concept chrétien, c'est aimer son prochain, pas aimer l'humanité. Dans un texte assez intéressant de Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, il y a un moine qu'on appelle le Starets qui raconte cette histoire d'un de ses amis médecins et qui dit, et son ami médecin disait cette chose à ce Starets, « J'aime l'humanité, mais à ma grande surprise, plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens particuliers. J'ai plus d'une fois rêvé passionnément de servir l'humanité et peut-être je serais même monté au calvaire pour mes semblables, alors que je ne peux pas vivre avec une personne 2 jours de suite dans la même chambre, je sais par expérience. Dès que je sens quelqu'un près de moi, sa personnalité opprime mon amour-propre et gêne ma liberté. Pardon. En 24 heures, je peux prendre en grippe les meilleurs gens du monde. L'un parce qu'il reste trop longtemps à table, un autre parce qu'il est enrhumé et ne fait qu'éternuer. Je deviens l'ennemi des hommes dès que je suis en contact avec eux. En revanche, invariablement, plus je déteste les gens particuliers, plus je brûle d'amour pour l'humanité en général. C'est très fin comme analyse. Et où ? C'est l'humanitarisme. C'est cette démarche, finalement, qui vise à éviter le prochain pour servir les grandes causes humanitaires. On voit beaucoup de gens qui s'engagent dans des grandes causes humanitaires, mais quand vous êtes avec eux, je parlais avec un chauffeur de taxi tout à l'heure qui me parlait des grèves, il y a un ami qui était là et il m'a dit, mais c'était terrible, une haine entre les gens, enfin, une violence entre les différents mouvements et tout. Il me disait, mais c'était terrible de voir ça. Et on était là pour se battre pour des droits. On se bat pour un concept et des idées, mais peut-être qu'on n'aime pas toujours son voisin comme ça. Le charisme nous oblige à rentrer dans cette logique qui est la culture de l'amour et qui découvre ça. Alors l'Eucharistie va faire deux choses, et je vais terminer avec ça. La première chose, c'est reconnaître vraiment le visage de l'autre. Et je vous dis ce texte qui est bouleversant. Je crois que je suis là. C'est Emmanuel Mounier, vous savez, un philosophe qui a eu sa fille handicapée, très grave. Et là, sa petite Françoise, qui est morte à 5 ans. Il dit... De tout mon cœur, de tout notre cœur, j'espère que Françoise sera ce que nous aimerions qu'elle soit. Mais si Dieu voulait autre chose, je ne suis pas sûr que nous ne trouverions pas une plus grande joie spirituelle à la faire cheminer à travers des voies obscures qu'en faire une petite bonne femme quelconque. Comme nous réalisons peu et mal cette situation chrétienne, nous sommes des voyageurs, dit-il, et nous essayons un petit pas d'avancer avec elle, comme des chrétiens à corps perdu devant ce corps souffrant. Et dit Françoise, l'épreuve continue, désespérément lente et persévérante. C'est actuellement une rechute faible mais nette. Nous avons le cœur bien triste, mais nous sommes guéris de l'angoisse. Et à un moment donné, il écrit une lettre, quelque temps avant sa mort, elle dit, quel sens aurait tout cela si notre petite Françoise n'était qu'un morceau de chair abîmée, on ne sait où, un peu de vie accidentée. Si elle n'était pas cette blanche petite hostie qui nous dépasse tous, une infinité de mystères et d'amour qui nous éblouirait si nous le voyons face à face. Si chaque coup plus dur n'était une élévation nouvelle, qui chaque fois, quand notre cœur commence à être habitué, adapté au coup précédent, est une nouvelle question d'amour. Tu entends cette pauvre petite voix suppliante de tous les enfants martyrs dans le monde et ce regret d'avoir perdu leur enfance au cœur de millions d'hommes qui nous demandent, comme un pauvre au bord du chemin, « Dites, vous qui avez votre amour, les mains pleines de lumière, vous voulez bien nous en donner un petit peu ?» Cette petite hostie blanche qui nous dépasse tous. Voyez-vous, derrière le frère et la sœur vulnérable et la plus vulnérable, derrière les vies les plus fragiles et les plus blessées, derrière les corps les plus meurtris et les plus handicapés, une petite hostie blanche qui nous dépasse tous. Un père me disait un jour devant son fils grabataire, on était là au pied de ce lit, et il dit, Nicolas, il y a 60 kilos d'amour sur ce lit. On sait bien que l'amour ne se pèse pas, mais ce qui veut dire que la chair même était porteuse d'un amour et que cette chair même était la transparence de l'amour. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est la grâce. Pour vivre cela, il nous faut la force de Dieu. Et je pense que c'est la seule force révolutionnaire aujourd'hui. C'est ce que le pape dit, l'homme a voulu se sauver lui-même. C'est une hérésie qu'on appelle le pélagianisme. On a pensé qu'on pouvait bâtir la justice, la paix, l'avenir radieux de Karl Marx, ou l'avenir du bien-être de Adam Smith et de Alan Mink, de dire qu'on allait enfin atteindre la fin de l'histoire d'un monde qui avait dépassé les luttes et par les progrès de la science et de la technique, on allait réussir le monde parfait, le paradis sur terre. Et je ne sais pas, vous avez vu, ce n'est pas le cas. On n'a pas le paradis sur terre. Finalement, ce monde parfait qu'on a voulu vivre, qui était une sorte de caricature de l'espérance chrétienne, d'un optimisme béat en un avenir qui devrait être donné par la science, n'est pas possible. Et ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut revenir à la grâce, que c'est sa puissance qui se déploie dans la faiblesse, que c'est par lui que les choses se font. Et donc l'Eucharistie est au cœur de la révolution sociopolitique du monde. C'est ce que Saint-Pierre Julien Aymard avait découvert en disant qu'il n'y a pas d'avenir pour la France, pour l'Europe, si l'on ne vient pas proclamer la seigneurie du Christ au Saint-Sacrement, si le règne eucharistique n'arrive pas, si l'homme ne trouve pas un lieu où s'agenouiller et se prosterner afin de recevoir les lumières et la force pour bâtir un monde différent. Les lumières, l'intelligence éclairée, la force, une volonté déterminée, un courage et une audace inouïe pour transformer les choses. Et en faisant travailler le Saint-Sacrement, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire en l'exposant, il permet une irradiation, une transformation du monde. Voilà l'œuvre que Dieu va accomplir. Et je crois qu'il faut aujourd'hui des lieux d'exemplarité de ça. Il faut des paroisses, des lieux, des communautés, où tout d'un coup cette articulation du Christ pauvre, de notre propre pauvreté, des pauvres frères et sœurs, vivent ensemble de manière prophétique et significative pour que le monde comprenne par la visibilité de ça qu'il y a une autre voie que celle que nous avons prise, de la toute-puissance, de la toute-force, de la toute-science, de l'homme augmenté, du transhumanisme, du robot, du cyborg ou je ne sais quoi, pour nous dire mais non, au cœur de ce monde, c'est la vulnérabilité qui va être déterminante. Et cette vulnérabilité qui fait tellement peur est aimée, assumée, transfigurée par le Christ. Ce qu'il faisait dire à Bernanos, les pauvres sauveront le monde. Ils feront cette œuvre impossible et inouïe de sauver le monde parce qu'ils sont à la charnière même de l'histoire de l'humanité, là où l'espérance devient désespérance, eux vont garder l'espérance pour dire je ne peux rien sans lui, je ne peux rien sans Dieu, je ne peux rien sans la grâce. Et cette transfiguration va s'opérer de la manière suivante. Donc, l'Eucharistie, le Christ pauvre abaissé à l'Eucharistie, me rejoint dans ma pauvreté, me fait ouvrir le cœur et le regard sur l'autre qui est pauvre, et nous devenons des révolutionnaires. On est loin du cyborg, on est loin du transhumain, on est loin de l'homme parfait avec des nœuds, des électrodes partout, ou des exosquelettes qui nous feraient faire des choses extraordinaires. Non, on est dans la chair, pauvre et vulnérable, qui est assumé, qui est transfiguré et qui un jour ressuscitera. Car en communiant au corps du Christ, c'est saint Jean Chrysostome qui disait ça, un père de l'Église, nous recevons le germe d'immortalité en nous qui donnera la force de résurrection au temps venu pour Dieu. Amen.